Nzamba.
Nzambi rasamirana. Le journal avec Francine Cagnani.
Nous sommes mercredi 14 décembre 2022. Merci d'être avec nous sur la radio Inzamagatekakawe. C'est le moment du journal en français dont voici d'abord les principales articulations. Floriane Ilangawiye, c'est la seule femme journaliste emprisonnée pour son métier en Afrique, selon une enquête réalisée par le Comité pour la protection des journalistes CPJ. L'organisation demande sa libération. L'assassinat d'Alice Naoka Guillé, une femme tuée le 5 de ce mois dans le quartier 9 à Ngagara, au mairie de Bujumbura, continue à susciter des réactions de condamnation. Le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi appelle la justice à redoubler d'efforts pour que la vérité soit connue sur ce crime qu'il qualifie de crapuleux. Le tribunal de grande instance de Muyinga vient de condamner 3 hommes à 10 ans d'emprisonnement. Ils sont accusés de trafic de stupéfiants à partir de la Tanzanie. Voilà pour le sommaire.
Suivez les émissions de la radio Inzamba en direct sur le www.inzamba.org.
Jusqu'au 31 décembre 2022, 363 journalistes étaient derrière les barreaux dans le monde, selon le recensement fait par le Comité pour la protection des journalistes CPJ. Parmi ces journalistes, Floriane Ilangawiye, une journaliste burundaise de la radio Igitaniro, incarcérée dans la prison de Muyinga depuis le mois d'août dernier. Elle est reconnue par le recensement de la CPJ comme la seule femme journaliste emprisonnée en Afrique pour son métier. Pour Tom Gibson, représentant de l'Union européenne au sein de cette organisation, cet emprisonnement montre à suffisance que le Burundi reste un environnement difficile pour le travail des journalistes et demande qu'elle soit libérée sans condition. Suivez-le.
Au Comité pour la protection des journalistes, nous continuons à lancer l'appel que Floriane Ilangawiye soit libérée immédiatement et sans condition, et qu'elle soit autorisée à continuer sa vie et son travail sans autre ingérence. Elle a été arrêtée en août de cette année. Elle reste en détention. Elle est la seule femme journaliste d'Afrique subsaharienne qui se trouve actuellement en prison. Alors, sa détention est importante parce que ça montre que le Burundi reste un environnement difficile pour les journalistes. Il y a une certaine hostilité de la part des autorités burundaises contre les journalistes et surtout les journalistes en exil. C'est un message que, en fait, les journalistes peuvent être traités comme les opposants. Ça limite l'espace pour les activités légitimes pour les journalistes. Le droit des journalistes est de travailler et voyager librement sans ingérence. Il y a de leur part une obligation nationale et internationale pour protéger la liberté d'expression. Mais il est clair que les autorités continuent à ne pas tolérer les critiques légitimes. Les Burundais méritent une presse libre et dynamique qui devrait permettre, en tant que citoyen, de recevoir les informations fiables et aussi de demander la rédhabilitation du pouvoir burundais.
Bon, l'actualité judiciaire, 20 ans de prison ferme, c'est la peine prononcée hier mardi par le tribunal de grande instance de Bubanza contre un certain Jean-Paul Muhire. Il est accusé d'être responsable de la mort de son ami Ezekiel Nzoyira. Des sources à Bubanza affirment qu'Ezekiel Nzoyira a succombé à ses blessures après avoir reçu des coups de couteau lors d'une bagarre avec Jean-Paul Muhire. C'était la semaine dernière à Muzinda, en commune Lugazi de la même province de Bubanza. Et dans la province Muyinga, le tribunal de grande instance a condamné 3 hommes à une peine de 10 ans d'emprisonnement et paiement d'une amende de 10 millions de francs burundais chacun mardi lors d'un procès de flagrance. Tous les 3 ont été reconnus coupables de trafic et de commercialisation de stupéfiants. Ramadan Goutoyi, Sylvestre Gwassa de la colline Mourire en commune Muyinga et Jean Bosco Nyonzima de la colline Gisanze en commune Gachoro ont fait entrer au Burundi du chanvre à partir de la Tanzanie. Ils ont tous plaidé coupables ils avaient été arrêtés mercredi dernier en possession de 30 kilos de cannabis. Pour la suite de ce journal, les présumés auteurs du crime du meurtre d'Alice Naoka Guillé doivent être arrêtés et traduits en justice. Propos de Jeanne d'Arc Zaniniana, présidente du mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi, l'État burundais devrait agir pour que les coupables soient traduits en justice, selon toujours Jeanne d'Arc Zaniniana, qui appelle la justice burundaise à être impartiale dans le traitement de ce dossier. On l'écoute.
Le cas de Madame Alice, c'est un des cas qui, aujourd'hui, nous interpelle encore une fois et nous donne l'image de la situation des droits de l'homme au Burundi actuellement. Et voir qu'une femme peut être tuée et jetée et comme si c'était des poubelles dans la rue, n'importe où, et on n'ose même pas imaginer la douleur des leurs par rapport à ce comportement qui est vraiment atroce, qui est un comportement que je qualifierais animal. C'est vraiment encore plus déplorable de voir, d'entendre qu'aujourd'hui, on sait très bien le contexte dans lequel Mme Alice a été tuée et on n'a pas encore jusque-là entendu que les présumés auteurs ont été arrêtés, n'offusquent que pour les enquêtes. Et ce qui fait encore plus mal et de voir comment aujourd'hui l'attitude de des gouvernants du Burundi, l'attitude de la justice burundaise ne donne pas l'espoir que demain ou après-demain, il y a vraiment la volonté d'un changement par rapport au respect des droits de l'homme, par rapport à la prise en main des cas de ce genre de meurtre par la justice burundaise. Nous ne pouvons donc que interpeller les autorités burundaises en rappelant qu'aujourd'hui, la douleur des Burundais dénote l'image de la justice burundaise, montre à quel point le Burundi n'est plus un pays où un Burundais est sécurisé, où les droits des êtres humains sont respectés. Cela ne pourra jamais arriver si la justice burundaise ne prenne pas ses responsabilités en mettant en avant la répression de tous ces crimes, la répression de ces auteurs de ces crimes, pour que demain ou après-demain, nous pouvons encore une fois espérer de voir un Burundi meilleur, un Burundi où chaque Burundais peut réellement vivre en tranquillité.
Pour rappel, Alice Naoka Guillé a été vue pour la dernière fois au domicile du général Isidore Diokugayo. Son corps sans vie a été découvert dans la matinée du 5 décembre dernier au quartier 9 en Ngagala, tout près de l'ancienne société Sodeco. Une famille de la zone Kinindo, en mairie de Bujumbura, crie à l'injustice. Sa maison vient d'être attribuée à la banque Ecobank, Burundi, dans des conditions que son propriétaire qualifie de frauduleuses. Selon des témoins, la famille de Vincent Niyounou a prêté son titre de propriété à un groupement qui avait gagné au marché de construction d'école pour avoir un crédit à la banque Ecobank. Après la faillite de ce groupement, Ecobank a procédé à la saisie des garanties, y compris la maison de la famille de Vincent, qui dit n'avoir jamais été signifiée par le tribunal de commerce. Les détails avec ton fils Niyongere.
Le groupement de trois sociétés n'avait qu'une maison de garantie d'une valeur de 245 millions de francs burundais alors qu'il voulait un crédit de plus de 400 millions de francs burundais. Le titre de la maison 6 à Kinindo, avenue Lusama, numéro 57, que la famille Vincent Niyounou a prêté ce groupement, représente une valeur de 460 millions. Notre témoin indique que la famille n'a jamais été informée sur un quiconque procès contre elle. Le tribunal de commerce a signifié un certain Youssouf Nibigira qui n'est pas connu de la famille. Cette famille de Kinindo n'a jamais été signifiée. Les responsables du groupement qui avaient contracté la dette avaient tous pris fuite. Le tribunal du commerce a rendu son jugement. Les deux maisons devraient être vendues. L'Ecobank n'a jamais notifié à la famille la procédure de saisie de sa maison. Plus tard, la famille a appris que la maison allait être vendue. La banque a finalement fait savoir à la famille qu'un certain Niyugira Youssouf a été signifié alors qu'il n'est pas connu de la famille. Jusqu'à maintenant, que ce soit l'Ecobank ou le tribunal du commerce, ils n'ont pas présenté cette personne qui a été signifiée.
La famille a saisi la présidence de la République parce qu'elle estime que derrière ce dossier se cachent des corruptions au ministère de la Justice et au parquet près de la cour d'appel de Mukasa. Les services de la présidence avait interdit l'exécution de son projet avant qu'il ne se prononce. Cependant, c'est ce lundi que le tribunal de commerce a procédé à l'exécution.
Ils ont pris la décision de saisir la présidence de la République. Le dossier a été instruit par son conseiller Jean-Claude Kalegwa. C'est à ce moment que la présidence a signifié au ministre que l'exécution devrait attendre. À maintes reprises, il y a eu tentative de faire sortir la famille dans cette maison, mais à chaque fois la présidence s'est informée que l'exécution doit attendre. Nous apprenons que ce dossier est exécuté sous pression du général Wakenya qui veut acheter cette maison. La preuve est que à chaque fois qu'ils viennent pour l'exécution, son petit frère qui s'appelle Artemon est toujours présent, même ce lundi, il était là avec les policiers.
Le général Christophe Mandambona alias Wakenya aurait eu la faveur d'acheter cette maison à un prix de 250 millions de francs burundais alors qu'elle avait une valeur de 460 millions en 2014, soit après 8 ans. Ce qui inquiète la famille, c'est qu'elle a proposé en maître reprise à Ecobank de lui donner la somme qui restait au groupement pour liquider le crédit. C'était une somme de 175 millions, mais Ecobank a toujours refusé. Les responsables de ce groupement ne sont pas inquiétés. La famille est pour le moment dans une situation précaire. Ses voisins plaident pour que la présidence qui a d'assainir ce dossier puisse agir pour rendre justice à cette famille. La rédaction de la radio Nzamba Gate Kakawe n'a pas encore trouvé les contacts du conseil juridique de l'Ecobank qui était présent sur le lieu d'exécution qui s'appelle François pour sa réaction.
Nzamba.
L'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité hier mardi le projet de loi portant ratification de l'accord commercial entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et le gouvernement du Burundi. Selon Dieudonné de Kundané, ministre des Infrastructures, envoyé par le gouvernement à la place du ministre du Commerce pour expliquer ce projet de loi, cet accord commercial avec la RDC concerne surtout le commerce transfrontalier effectué par de petits commerçants qui exportent des quantités ne dépassant pas une valeur convenue de 500 dollars américains par jour et par commerçant. Suivez.
Les 31 articles qui figurent dans ce projet relatent comment ce qu'on appelle petits commerçants vont être facilités dans l'échange de leurs marchandises. Bien sûr, ils vont payer les impôts et les taxes, mais les droits de douane seront supprimés pour les commerçants qui auront des marchandises qui ont une valeur qui ne dépasse pas 500 dollars. Un autre point important dans ce projet, il faut que les investisseurs qui auront besoin d'investir dans ces deux pays puissent avoir des facilités. Si on a ouvert les frontières pour échanger les marchandises, c'est aussi penser à cela qu'ils vont faire ces échanges.
Les députés présents ont manifesté leurs inquiétudes quant à la valeur ajoutée pour un citoyen burundais et pour le pays en général sur un possible déséquilibre dans l'échange des marchandises avec un pays vaste comme la RDC. Une question qui a été soulevée par le président de l'Assemblée nationale, Daniel Gelaz Ndawirabe.
Concernant l'épargne par exemple, qu'est-ce que vous préconisez comme mesure d'accompagnement pour qu'une fois les échanges commencent, la RDC ne puisse pas envahir le marché burundais? Vous savez que le Congo est un pays vaste. Si on les laisse au marché, la Côte d'Ivoire va fermer. Quelles mesures d'accompagnement allez-vous prendre justement pour protéger le marché du Burundi?
En réponse à ces inquiétudes, le ministre des Infrastructures, Dieudonné Kundané, a évoqué l'article 10 de ce projet de loi qui met en place les mesures de sauvegarde.
Si on s'appuie sur l'article 10 de ce projet, il évoque les mesures de sauvegarde. C'est à travers cet article que chaque pays va pouvoir protéger ses entreprises pour qu'elles ne soient pas touchées par cet échange commercial. C'est un article qui a 5 alinéas. C'est cet article qui nous protège tous. Dans les réunions de suivi de la mise en application de cet accord, les participants vont en tenir compte parce qu'on s'est bien convenu sur ça.
Ce projet s'inscrit dans le renforcement et le développement des relations commerciales sur base de l'égalité, de la compréhension mutuelle et d'intensification des liens bilatéraux d'amitié en accord commercial entre la RDC et le Burundi, signé à Kinshasa le 29 avril 2022. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Au revoir et à la prochaine.